When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenue, chers compagnons, sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général. Puis, nous débattons sur un sujet de fond. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la radio des compagnons du DevOps. Et avec moi, il y a Damir et Erwan. Je vais les laisser se présenter et juste après, on va pouvoir commencer. Damir, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Alors bonjour à tous. Donc moi, je me définis comme un créateur de nuages. Donc je suis ingénieur cloud et DevOps à WeScale et je suis passionné d'open source et de logiciels libres. Et je partage, j'essaie de partager régulièrement sur mon blog, donc damir.fr.
Et bonjour, moi c'est Erwan, je suis sysadmin DevOps depuis un peu plus de 10 ans. Aujourd'hui je travaille pour une petite startup qui s'appelle Tukantoko et j'essaye de m'impliquer tant bien que mal dans l'open source sur des projets autour de la supervision.
Et moi c'est Christophe, je suis le créateur et l'animateur des Compagnons du DevOps. Je suis aussi membre du collectif de freelance indépendant qui s'appelle l'Hydra. Et en fait, on aide les entreprises du numérique à déployer leurs applications sans couper leurs services et à faire leur transition DevOps en les mentorant ou en les coachant. Et on va tout de suite commencer par les actus, et notamment une qui est un peu vieille, c'est la création de la Fondation pour la promotion du déploiement continu. En mars 2019, en fait, la Linux Foundation a annoncé avoir créé la Continuous Delivery Foundation, qui est définie comme une maison d'accueil indépendante pour les projets open source les plus importants en matière de déploiement et d'intégration continue. Les premiers projets en fait qui sont hébergés par cette fondation, c'est Jenkins, un système d'intégration et de déploiement continu open source, Jenkins X qui est la même solution mais plutôt dédiée Kubernetes, Spinnaker qui est une solution de déploiement continu multi-cloud en open source, Tecton qui est un projet et une spécification open source pour des composants de pipeline intégration continue et déploiement continu. Et enfin, ils annoncent que d'autres projets devraient rejoindre la fondation, puisque le comité de supervision technique a pour but justement de rassembler l'écosystème du déploiement continu. Et du coup, leur objectif, en fait, avec cette fondation, outre héberger des outils de manière complètement indépendante, c'est aussi d'apporter des spécifications pour améliorer la vie des projets sur la portabilité et l'interopérabilité de l'intégration et du déploiement continu. Alors, à l'origine de cette initiative, c'était un besoin de l'industrie de collaborer sur les sujets de pipeline et les flux de travaux sur l'intégration et le déploiement continu. La fondation, en plus des outils et de la définition des pratiques, elle a pour ambition d'aider les développeurs partout dans le monde à améliorer en fait la robustesse de leur logiciel et à améliorer le fait de déployer plus rapidement leurs outils. Et ils espèrent travailler avec la communauté open source et les leaders de l'industrie et surtout d'évangéliser les développeurs et les ops avec les méthodologies d'intégration continue, de déploiement continu et surtout du DevOps. À l'origine de cette fondation, il y a 20 membres fondateurs, notamment, enfin les plus notables, il y a Alibaba, Atos, CircleCI, CloudBees qui est derrière Jenkins, DeployHub, GitLab, Google, HSBC, Huawei, IBM, JFrog, Netflix, Puppet, Rancher, Red Hat et SAP et plein d'autres puisqu'on ne peut pas tous les citer. Pour en savoir un peu plus, on vous mettra des liens dans la description du podcast et moi j'aimerais savoir ce que vous en pensez tous les deux. Damir, est-ce que tu as un avis là-dessus ?
Alors, moi, je pense que ça peut être quand même une bonne idée, notamment pour rassembler un peu tout ce qui est bonne pratique. Ce serait qu'aujourd'hui, les solutions de CI et de CD, se multiplient quand même assez rapidement, hein. On le voit, au marché avec des trucs comme CircleCI et des choses comme ça qui apparaissent assez rapidement. Donc je pense que ça peut être vraiment bien d'avoir un endroit où centraliser un peu les bonnes pratiques, la bonne manière de faire, pour ensuite un peu bah voilà, diffuser ça au maximum de personnes possible.
Ouais, moi je rejoins assez ce point de vue. Après, il faut voir concrètement ce qui ressortira de ce genre de fondation et surtout comment ça va prendre, si c'est pas juste un regroupement de façades juste pour faire du chauffe et dire que les différents partenaires existent, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu la crainte que j'ai quand j'ai vu les noms qui étaient associés, notamment les grands noms et les premiers projets, puisque les plus gros projets viennent de chez Google. Enfin, en tout cas, l'annonce mettait bien Google en avant. J'avais peur justement que ça puisse devenir un porte-étendard de ces solutions-là. Après, je sais pas, je vais suivre ça de près. Pour l'instant, on n'en a pas vraiment entendu parler plus que l'annonce, en tout cas de mon côté. Donc c'est une affaire à suivre et on verra ce que ça donne. Erwan, tu nous as préparé une petite annonce aussi, elle a fait grand bruit récemment. Juste la nuit avant le DevOps Day, on a appris quelque chose. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, c'est la partie page rose de l'émission sur la revente de Docker, de sa partie entreprise, etc. Donc c'est lié à la récente levée de fonds qui a eu lieu mi-octobre et qui accompagne toute une restructuration au sein même de Docker avec un nouveau CEO, Scott Johnson, une toute autre organisation. Et en fait, l'idée qui était derrière cette revente donc Docker Enterprise à Mirantis, c'est de se séparer vraiment de toute l'activité d'hébergement de la plateforme de conteneurs telle qu'on la connaît et de la livrer à Mirantis, qui finalement était un concurrent sur le marché, puisqu'il faisait globalement la même chose. C'était une espèce de plateforme de conteneurs sur du multi-cloud. Enfin, c'était la promesse. Et ce qui est assez surprenant, c'est que avec cette revente, Docker se sépare aussi de 300 salariés. C'est quand même pas rien. Donc la levée de fonds, elle est autour de 90 millions de dollars. Ce qui porte à c'est censé préparer en fait une IPO qui devrait être annoncée dans les temps à venir. Et tout ça pour une petite valorisation sympa de plus d'1 milliard de dollars de l'entreprise. Et pourquoi Docker fait tout ça? C'est que globalement, ils estiment qu'ils se sont un petit peu trop éparpillés sur plein de choses, entre le service, entre les outils, la communauté open source, etc. Et en fait, en se libérant du poids du service et de leur partie plateforme, bah, ils espèrent se recentrer sur créer des outils pour la communauté et surtout se recentrer sur le besoin de créer des outils pour les développeurs et cette communauté-là. Et donc toute la nouvelle stratégie de Docker est censée tourner là-dessus. Mirantis s'engage à garder les différents projets associés qui étaient open source, donc les garder aussi open source et assurer le suivi en partenariat bien sûr avec Docker. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que Docker, ils veulent plus vraiment faire 10 000 choses, ils veulent juste continuer à développer leur engine et les différents outils pour permettre aux développeurs en local, entre guillemets, de pouvoir travailler dans les meilleures conditions et avec le meilleur tooling possible.
Et je sais pas, j'ai peut-être pas entendu l'information, mais est-ce qu'on sait combien a mis Mirantis sur
Ouais.
la table pour acheter Docker Entreprise?
Alors c'est les chiffres, ils sont il y a pas de chiffres officiels. Et là, du coup, c'est que des estimations, c'est pas hyper fiable. Suivant les sources, j'ai pas d'informations pour pouvoir te donner un chiffre exact.
Du coup, ça restera un mystère. Damir, t'en penses quoi?
Bah moi, je vois surtout que c'est un constat un peu triste pour tout ce qui est grosses entreprises de la tech qui sont dans l'open source, hein, et il y a Red Hat quand même qui s'est fait racheter par IBM il y a peu. Là, il y a Docker, donc on voit quand même que trouver un business model avec un produit open source qui soit viable, c'est quelque chose qui est compliqué, même si l'open source, ben, c'est quelque chose qui est vraiment à la mode, qu'on pousse beaucoup, etc. Bah, c'est pas pour autant que le business model est facile à trouver, que créer une entreprise rentable dans l'open source est facile, visiblement. Donc J'attends de voir ce que ça va donner, on va
Ouais,
dire.
c'est exactement ça, c'est que moi dans les différents articles que j'ai lus, globalement, on sent que la Docker a levé plein de fonds pour tenter plein de choses pour trouver un niveau de rentabilité satisfaisant. Et en fait, il y a plein de choses qui ne marchent pas, ou en tout cas dont les projections sont pas suffisantes pour assurer les investisseurs, et du coup ils sont obligés de choisir leur combat, quoi.
C'est marrant parce que tu parles du rachat de Red Hat. Je pense qu'en fait, on pourrait même faire un épisode complet sur les rachats des entreprises open source, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Mais je pense que Red Hat n'était pas dans la même position que Docker, puisque Docker, si on se rappelle bien, avait perdu quand même quelques porte-étendards l'année dernière et l'année d'avant. Et en plus, moi, je connais Docker depuis le début et j'ai pas vraiment l'impression qu'il faisait beaucoup de chiffre d'affaires, en tout cas que le chiffre d'affaires était pas là, et que c'était une entreprise qui vivait vraiment sur les levées de fonds. Moi, je me pose quand même une question aujourd'hui, c'est comment est-ce que, même en se séparant de la partie entreprise, Docker va gagner de l'argent? Parce que créer des outils open source et libres, c'est super, mais où est-ce qu'ils vont faire du chiffre d'affaires? Comment est-ce que cette entreprise va vivre en dehors des levées de fonds? Est-ce que vous en avez une idée?
Déjà, juste un truc qui est sûr, c'est que par exemple, leur plateforme d'hébergement de conteneurs, donc ce qui était sur la partie entreprise, c'était que 750 clients, et donc qui sont tous repris du coup par Mirantis. Mais en fait, dans les 750 clients, quand tu vois les références, ça reste c'est hyper modeste. Donc c'est sûr que c'est pas avec ça qui c'était pas ça le vrai levier. Et en plus, j'imagine que pour eux, ça coûte énormément d'énergie de maintenir ce genre de service et de plateforme. Donc ils ont essayé, ça n'a pas pris autant qu'il fallait. Ils se recentrent sur leur cœur de métier, quoi, qui est de faire des outils pour les devs, quoi.
Et puis de bons outils. Damir, toi, tu as quand même un truc hyper important à nous annoncer. Quelque chose qui est même proche de l'apocalypse, on peut dire.
Ah oui, clairement, là on est pas loin de la fin des temps. Et voilà, il n'y a plus d'IPv4 libre, du moins pour la zone Europe, tout simplement. Le 25 novembre 2019, la Network Coordination Center, excusez-moi, de l'Union européenne a annoncé avoir attribué le dernier stage 22 d'IPv4 restant. Donc un petit pincement au cœur pour nous. On ne peut pas dire que ce soit réellement une surprise. L'épuisement de l'IPv4 était prévu et suivi de longue date, hein. On se souvient des rapports de l'ARCEP régulièrement qui montraient le graphe en chute libre. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Bah, tout d'abord, rassurez-vous, hein, ce n'est pas la fin de l'Internet, c'est pas l'apocalypse, comme on l'a dit. Néanmoins, on s'attend à ce que les prix de l'IPv4 augmentent rapidement au vu du déséquilibre entre l'offre et la demande. Il n'y a clairement plus d'offres nouvelles qui est injectée sur le marché. Alors, y a-t-il des solutions? Oui, l'IPv4, bon, on sait que ça va être fini depuis des décennies, hein. Maintenant, c'est pas une surprise, loin de là. Vous connaissez d'ailleurs sûrement son remplaçant, il n'est pas nouveau pour autant, c'est l'IPv6 tout simplement. Alors, vous allez sûrement vous demander pourquoi l'IPv6, qui est assez ancien, il ne faut pas oublier qu'il a été spécifié officiellement dans les années 90, donc fin 90, 98, bah pourquoi il n'est tout simplement pas encore largement utilisé? Bah, je pense que c'est surtout lié à Internet qui a grandi rapidement, peut-être trop rapidement, tout a évolué très vite. La colonne vertébrale de cette expansion, bah, ça a toujours été le réseau, qu'on le veuille ou non. Pendant des années, il a fallu construire, bah, du coup, vite, facilement, en minimisant les risques. Donc on est resté sur ce qu'on connaissait, ce qu'on maîtrisait, ce sur quoi on était sûr que nos scripts passeraient, nos matériels passeraient. Donc c'est l'IPv4. Le souci, c'est que le réseau, c'est le liant de tout ça, de notre web moderne, notre web 2.0. Et oui, votre site en Angular ou Node.js dépend d'une technologie qui date de 1983. Le remplacer, c'est possible, mais ça va être long, coûteux, et surtout, le manque d'expérience de retour sur l'IPv6 va compliquer largement les déploiements. On le voit bien aujourd'hui chez les FAI, les fournisseurs d'infrastructures. On a eu pas mal d'études qui ont été faites ces derniers temps sur le taux de déploiement de l'IPv6. La majorité n'ont pas déployé en fait l'IPv6 à très grande échelle, malgré quand même un nombre de techniciens assez qualifiés dans ces entreprises-là. Mais J'aime à penser que la fin de l'IPv4 et l'augmentation des prix de celle-ci va mettre un peu dos au mur certaines entreprises et va forcer à mettre plus de moyens et accélérer les migrations vers l'IPv6, notamment chez eux, en fait, tout simplement. Donc voilà, je mettrai le lien dans la description, donc il y a un très bon article de l'ARCEP là-dessus. Et Christophe, qu'est-ce que tu en penses du coup de cette fin du monde, entre guillemets?
Eh ben, qu'il va falloir que je me mette à l'IPv6 et que c'est pas gagné parce que parce que c'est un peu compliqué à retenir en plus. Donc déjà l'IPv4 c'était pas ça, mais bon, je pense que ça va quand même bien se passer parce que bon, c'est pas nouveau l'IPv6 comme tu le disais, et a priori on s'en sort. Et malgré le fait qu'il n'y ait plus l'IPv4 pour l'instant, Internet s'est pas arrêté, donc jusque-là tout va bien.
Ouais, moi, c'est rigolo, ça me rappelle mes années d'étudiant. J'ai étudié à Paris 6, à Jussieu, qui est un des laboratoires, enfin, qui a beaucoup participé à IPv6, et on en a entendu parler énormément, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, ce qui était rigolo, c'est qu'il y a un de mes profs qui justement, reprenait un peu ce que tu disais, qui était que le problème, c'est que non seulement, on n'ose pas faire le move parce que forcément c'est hyper délicat, même s'il y a plein de systèmes de transition qui ont été trouvés, que ce soit de l'encapsulation, des tunnels, etc. Mais surtout, c'est qu'il y a un manque de formation des gens en général sur l'IPv6, qui fait que, bah, quoi qu'il arrive, en fait, tant que c'est possible, le switch, il va être repoussé, quoi. Finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui sont à l'aise avec le sujet. Du coup, c'est marrant, c'est un peu comme le réchauffement climatique, hein. On va attendre de se prendre le mur avant de faire le move.
C'est vrai que c'est un peu dramatique ça quand même de devoir attendre, hein, d'en être là, parce qu'on le voit venir depuis un petit bout de temps le mur, hein. On a tous les mois le graphe qui est publié avec le stock qui baisse, mais visiblement ça n'a pas suffi. Donc voilà, comme je disais, on va voir ce que ça va donner, parce que l'IPv4 va être de plus en plus cher. Donc est-ce que des entreprises vont commencer à faire des moves là-dessus, ce qui serait intéressant.
Bah je sais que Google, ils disaient qu'ils servaient plus d'un quart de leur trafic en IPv6 ou je sais pas quoi. C'est les prémices, on va dire.
Voilà, c'est les prémices. Du moins, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le bon investissement à faire, c'était pas le Bitcoin, c'était ces dernières années. C'était bien d'acheter des IPv4 pour les revendre aujourd'hui, hein. C'était le bon placement à faire.
Clairement.
Mais bon, il n'y en a plus. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le faire avec les IPv6? L'avenir nous le dira.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du coup, on va pouvoir passer au sujet de fond. Pour ce premier épisode, quoi de mieux que de traiter du fameux ingénieur DevOps? Alors, l'ingénieur DevOps, mythe ou réalité, ça c'est vraiment quelque chose que je vois fleurir sur les réseaux sociaux un peu partout. Et je sais que Damir, il est un peu comme moi, il est un peu taquin, et il aime bien pousser un petit peu, puisque je l'ai vu sur Twitter, pousser des questions sur les gens qui veulent recruter des ingénieurs DevOps. Alors, j'aimerais quand même rappeler une petite définition que j'ai justement présentée à mes élèves pas plus tard que la semaine dernière. Donc, le DevOps, c'est un mouvement qui vise à aligner le système d'information sur les besoins de l'entreprise. Alors, c'est une définition parmi tant d'autres, hein, on pourrait en trouver plein. Mais du coup, l'ingénieur DevOps, est-ce que ça existe? Alors, moi, j'ai ma petite idée sur la question. Du coup, je vais poser la question à Erwan. Erwan, pour toi, un ingénieur DevOps, qu'est-ce que c'est?
Ouais, c'est marrant qu'on parle d'ingénieur DevOps comme ça, puisque effectivement, c'est plus une culture et un ensemble de pratiques plutôt qu'un métier. Donc c'est plutôt une culture et des pratiques qui peuvent s'appliquer à des métiers. Et donc moi je le vois plus comme des pratiques qui ont été principalement mises en place pour les métiers autour des sysadmins et des devs. Et de faire en sorte de justement briser les différents murs qui peuvent exister entre ces deux groupes de personnes. Et donc du coup, effectivement, l'ingénieur DevOps, je vois très bien de quel van vous parlez quand vous voyez des annonces de job sur un ingénieur DevOps. En fait, ça veut dire tout et n'importe quoi suivant les entreprises. C'est absolument pas du tout le même rôle, c'est pas du tout les mêmes compétences qui sont attendues. Et mi-tout réalité, c'est vraiment une très bonne, un très bon sujet.
Et alors toi, Damir, t'en penses quoi? Vas-y, déballe tout.
Alors ouais, moi c'est vrai que j'ai une petite passion sur Twitter, mais moi c'est plus au-delà des entreprises, c'est plus vers les écoles, parce que je trouve ça triste en fait d'enseigner des choses qui sont qui induisent en erreur les gens. Mais bon, ça, après c'est mon avis personnel. Non, moi moi j'ai une définition du DevOps qui est assez, on va dire, voilà, bon, je pense qu'il y a tout le monde qui a sa définition, je pense qu'il n'y en a aucune qui est réellement fausse. Donc moi je dirais plus que c'est en fait la traduction d'un besoin qui est un besoin en fait du coup économique, qui était de se dire faut réduire au maximum le time to market. Et on s'est rendu compte que au niveau du développement c'était bon, on était bien dans des cycles agiles, on délivrait un livrable tous les sprints, tous les temps de temps, donc on pouvait délivrer rapidement, donc un time to market assez faible. Et on s'est rendu compte qu'en réalité on avait mis de l'agilité partout en se disant putain on va délivrer vite, et au bout de 2-3 ans on s'est dit mais attends, mais tous les semaines on fait une nouvelle feature, mais elle est livrée que dans la mise à le déploiement qui est trimestriel. Donc c'est vrai que pour moi c'est un besoin d'abord plus économique et stratégique, qui s'est après traduit vers un rapprochement en fait des ops et des développeurs sur un même cycle en fait de déploiement, de développement et d'avancement. Et ça en fait ça nécessitait un gros travail d'acculturation au niveau de la collaboration et aussi au niveau de l'automatisation. Donc pour moi ça c'est des choses qui sont induites du coup. Voilà. Et donc effectivement aujourd'hui il y a beaucoup qui disent que c'est un travail. Ce qui me gêne un peu dans la mesure où pour moi c'est pas un travail, c'est comme Erwan l'a dit, hein, c'est une culture. Et ça peut être, comme Erwan le disait encore à nouveau, ça peut être tout et rien. Et j'ai déjà vu, petite anecdote, hein, j'ai déjà été faire un entretien dans une très grande banque en France qui est très présente sur l'innovation, dans laquelle je suis venu pour un entretien de DevOps. Et première question qu'on m'a posée, c'est tu vas faire combien de pourcents d'Ops et combien de pourcents de Dev? Je fais non, alors je pense qu'on s'est mal compris, et donc du coup voilà, c'est ta petite anecdote, mais c'est vrai que c'est un peu un sujet épineux aujourd'hui. J'ai l'impression aussi, moi c'est une impression personnelle, que beaucoup de gens considèrent que l'ingénieur DevOps c'est celui qui va vraiment s'occuper de tout ce qui est CI, cycle de déploiement et tout ça, et j'ai l'impression que pas mal de gens considèrent ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Toi par exemple, Christophe, t'en penses quoi de ça?
Ah oui, là-dessus sur la CI, j'ai mon avis tout fait, parce que moi je suis spécialisé justement dans le déploiement, et quand j'étais dans des grandes boîtes, je faisais que du déploiement, mais c'était pas pour ça que j'étais un ingénieur DevOps. Je me suis toujours considéré comme un ops parmi tant d'autres, à l'époque où on disait que j'étais gestionnaire d'application. Aujourd'hui, il y a encore des gestionnaires de livraison, et des personnes qui planifient les livraisons. Et en fait, moi, je discute beaucoup sur LinkedIn avec les recruteurs. Bah, c'est eux ma petite cible, même si les écoles, en effet, je les taquine. Et les recruteurs, je leur demande toujours, mais c'est quoi pour vous un ingénieur DevOps et il fait quoi? Et alors, du coup, en fonction des personnes que j'ai en face, c'est un profil totalement différent, quels que soient les interlocuteurs. Donc, du coup, en fait, on peut pas savoir vraiment. Des fois, c'est un DBA, souvent, c'est un développeur qui doit faire le déploiement, souvent c'est un ops qui doit aider les développeurs, enfin bref, c'est tout et n'importe quoi. Alors du coup, moi je me rappelle avoir, dans mon cours pour mes étudiants encore, j'y reviens, avoir dit que c'était pas le DevOps. En plus de l'ingénieur DevOps, je leur ai rappelé que c'était pas un outil, puisque en effet, dans la philosophie DevOps, on utilise des outils, mais c'est pas un outil. Évidemment, c'est pas un rôle ni un profil, hein, j'aime bien rappeler que l'ingénieur DevOps, c'est comme la cuillère, ça n'existe pas. C'est tout ce qui se passe dans l'organisation informatique, mais c'est pas un rôle. Du fait, si c'est pas un rôle, c'est pas non plus une équipe, parce que on voit souvent fleurir dans les grosses boîtes, voire très grosses boîtes, des équipes DevOps. Je sais pas si vous avez vu ça arriver, mais moi je le vois chez un de mes clients, et du coup, je me dis, mais non, mais comment ils font? Déjà, ils arrivent pas à faire coopérer leurs devs et leurs ops, ils viennent rajouter une équipe de plus, mais c'est pas possible, mais comment ils font? Et enfin, c'est pas une méthode. Alors, on parle beaucoup de méthode agile, méthode DevOps, mais pour moi, c'est en effet plus un mouvement, un état d'esprit qu'une méthode. C'est-à-dire qu'en fait, chaque entreprise doit trouver ses propres outils, ses propres méthodes et leur propre voie. Et alors vous, l'équipe DevOps, ça vous évoque quoi? Erwan, par exemple.
Je serais curieux de savoir dans l'entreprise que tu décrivais ce que justement quel était leur rôle, parce que s'il y a d'une partie il y a une équipe déjà ops et une équipe de dev, et que en fait c'est des gens qui font le lien entre les deux, ça serait enfin.
Non, je vais te répondre. C'est encore mieux que ça. Cette équipe DevOps, elle est chargée d'exploiter l'outil de déploiement continu qui va être déployé dans l'ESI. Et elle ne fait que ça.
Ouais, c'est donc du coup finalement c'est enfin c'est un... ouais j'ai pas trop d'avis sur la question. C'est là pour le coup ça fait plus on a appliqué un buzzword à un nom d'une équipe qu'on a montée pour faire une tâche précise, plutôt que d'essayer de représenter un peu les pratiques et les méthodes qu'on citait avant sur la réduction du time to market. Moi, mon sentiment comme ça, à gros grain, c'est j'ai le sentiment que à chaque fois qu'on parle de DevOps, on met en parallèle l'automatisation. Moi, quand j'ai commencé ma carrière et que j'étais sysadmin, j'essayais d'automatiser tout ce que je faisais. Alors, c'était pas les mêmes outils qu'aujourd'hui, mais globalement, il y avait toujours cette volonté de, bah, on doit faire une mise en prod. Bah, à l'époque, c'était des bêtes script bash. Aujourd'hui, on peut avoir des choses plus ambitieuses avec des conteneurs, du Ansible, du Terraform, ce qu'on veut. Mais je veux dire, enfin, en tout cas, moi, j'ai le sentiment que ça a toujours existé. Aujourd'hui, on a juste donné un nom à tout ça. Et vraiment, ce que je retiens de ce mouvement, c'est ce côté de ne plus avoir de silos entre les équipes et d'avoir des ponts qui se créent avec des langages communs. Et les langages communs, bah, c'est justement les pratiques autour de, par exemple, de tout doit être as a code, tout avec des reviews, avec des tests. Et ça, qu'on parle de code ou d'infrastructure et de configuration. Et moi, c'est plus comme ça que je le vois, enfin, que je vois un peu grossièrement ce qu'on appelle le rôle de DevOps. Pour moi, c'est quelqu'un qui est garant de cette méthodo et qui met en place bah, les outils pour arriver à tendre vers ça. Enfin, je sais pas si ça matche avec ce que vous pensez, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis aujourd'hui. Il s'avère que j'ai un background de sysadmin. Donc effectivement, les questions d'infra, etc., c'est souvent moi qui réponds. Mais mon travail premier, c'est avant tout de mettre en place ce qu'il faut pour que les devs se concentrent uniquement sur leur travail de dev, que faire des tests, avoir un environnement où déployer, ça soit quelque chose qu'ils puissent faire en totale autonomie. Avec des outils et donc le langage commun qu'on a mis en place pour faire le pont entre l'infra et ce qu'ils font et ce qu'ils produisent. Je sais pas si vous rejoignez ce point de vue.
Alors moi je rejoins plutôt, je suis entièrement d'accord sur le côté automatisation. Moi c'est pareil, j'étais à la base administrateur, je faisais du puppet sur mes machines, etc. Et j'ai clairement pas attendu qu'on vienne dire attends, si tu pourrais automatiser, ça serait super. Moi c'est un truc que tu fais automatiquement en fait par principe pour t'économiser du temps aussi. Donc c'est pour moi quelque chose qui, si tu le faisais pas avant, il y avait quand même un autre problème. Et après je pense effectivement qu'il y a une grosse notion de buzzword, et j'ai aussi cette impression qu'il y a beaucoup d'entreprises, surtout des grosses entreprises, qui ont dit, putain, le DevOps, c'est à la mode, c'est ça qu'il faut pour faire venir des nouveaux talents, c'est ça qu'il faut pour avoir vraiment de la visibilité sur les technos. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, on va prendre une équipe, on va dire c'est l'équipe DevOps, on va faire passer à deux une certif AWS, on va les envoyer au DevOps Rex et dans un autre salon, ils vont venir, ils vont prendre des photos pour les mettre sur Twitter et dire, vous avez vu, on est DevOps. Je caricature légèrement, mais moi, c'est ce que j'ai l'impression de beaucoup d'entreprises. Malheureusement, ça a été pris plus comme vraiment quelque chose de marketing, un effet de mode, que réellement quelque chose. Et souvent, là aussi, souvent, moi, les équipes DevOps que j'ai vues, en fait, c'est des gens qui faisaient comme avant. C'est juste qu'on leur a fait passer une certif AWS, on leur a dit, vous faites sur AWS, mais vous faites exactement la même chose que vous faisiez sur votre SI interne. Ben non, c'est pas ça une équipe DevOps, et c'est malheureusement beaucoup d'entreprises qui l'ont compris comme ça. Donc ouais, moi c'est un peu mon avis sur le point-là. Je sais pas si Christophe, toi, t'as un autre avis là-dessus.
Moi j'ai un avis complémentaire, du coup je vais vous le donner. Ce que tu décrivais tout à l'heure, Erwan, pour moi, ça faisait vraiment penser à un coach ou un mentor DevOps qui va en effet insuffler la philosophie et le mouvement à l'intérieur de l'entreprise plus que le rôle d'un ingénieur. Alors moi, je sais pas d'où vous venez, mais moi, à l'origine, j'étais développeur. C'était il y a déjà 20 ans. J'étais développeur, je faisais du C et tout. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai le background développeur qui automatise tout. Et suite à justement dans cette grosse boîte où j'étais chez Casino, je peux la nommer maintenant, je faisais l'exploitation de la prod, je faisais l'exploitation des applications et j'écrivais des scripts d'automatisation en effet pour faire le déploiement des logiciels. Bon, à l'époque on faisait pas tout automatisé, hein, mais déjà on faisait de l'automatisation. Puis après dans cette même boîte, j'ai rejoint une équipe qui s'appelait l'équipe outils. Et notre rôle, c'était de décrire des outils pour les développeurs ou pour les autres ops. Et on s'appelait pas l'équipe DevOps. Bon, le terme n'existait pas encore, mais on n'était pas. Enfin, je veux dire, je me considérais pas comme un autre rôle. Et il y a un article très bien là-dessus que je vous conseille. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en description. Alors, excusez mon anglais, mais cet article s'appelle Why the DevOps Engineer is a Misunderstood Role. Du coup, pourquoi est-ce que le rôle d'ingénieur DevOps est mal compris, est un rôle mal compris? Alors, c'est un article qui date d'avril, enfin, qui a été mis à jour en avril 2019 de Kaya Ismaël. Et dans cet article, il cite Sylvain Yergen. Il lui demande pourquoi est-ce qu'il y a une confusion dans le rôle de l'ingénieur DevOps et le rôle de l'ingénieur administrateur système ou autre. Et en fait, Sylvain, il dit quelque chose de très très juste. C'est qu'en fait, dans les entreprises, et notamment dans les grosses, c'est tellement compliqué d'insuffler ou d'introduire une nouvelle méthodologie que c'est beaucoup plus simple d'embaucher une personne qui aura un rôle. Et du coup, ces entreprises-là pensent qu'en embauchant des ingénieurs DevOps, si c'est comme ça qu'elles les appellent, ils vont pouvoir passer au DevOps plus facilement. Et en discutant avec les recruteurs et recruteuses, en leur posant des questions, beaucoup me disaient en effet à force que ils utilisaient le terme ingénieur DevOps par facilité, parce que déjà ça fait rêver, c'est un buzzword, et pourtant ce n'est ni plus ni moins qu'un rôle d'ops classique qui a juste des méthodes et qui a un état d'esprit complètement différent de ce qu'on faisait. C'est-à-dire que un administrateur système qui suit le mouvement DevOps, c'est pas un administrateur système à papa, comme je les appelle, qui va se connecter sur les machines et qui va installer ses paquets manuellement, qui va modifier sa petite conf Nginx comme ça en scred. Non, non, l'ingénieur DevOps, enfin, en tout cas tel qu'il l'appelle, l'ingénieur Ops qui suit le mouvement, il va justement automatiser tout ça. Alors, je suis un petit peu parti dans tous les sens, mais c'est normal, c'est comme ça, un podcast, donc on part dans tous les sens. Alors, je vais peut-être rebondir et remettre une pièce dans la machine. Ah non, Damir, il voulait dire quelque chose. Damir, je t'en prie.
Oui, alors c'est vrai que moi, je me suis intéressé un peu d'un autre point de vue, mais un point de vue plus des commerciaux, en fait, dans les grosses ESN notamment. Et j'ai essayé un peu de pousser, mais pourquoi on dit ingénieur DevOps, en fait? Et c'est aussi, il y a une autre question auquel on n'a pas pensé, qui est vraiment sortant du cadre technique, pourquoi les gens ont cette confusion. C'est tout simplement les outils. Parce qu'au final, aujourd'hui, comme on travaille tous sur les mêmes stacks et les mêmes choses, on travaille avec les mêmes outils. Donc, on a, par exemple, un ops aujourd'hui, on lui demande de connaître, je sais pas moi, par exemple, du Jenkins, il y a de la CI. Mais le dev, on va aussi lui demander du Jenkins parce qu'il y a hors sa partie de la CI. Donc, en fait, il m'expliquait que dans les fiches de poste, il y a des technos qui étaient de plus en plus similaires dans des deux côtés. Donc, ils avaient tendance à un peu être perdus vu qu'ils n'ont pas forcément le background technique. Et du coup, ils abrègent ça. Ils disent, il y a ça dans la stack, c'est DevOps. Comme ça, il y a moins de confusion pour eux. Mais du coup, c'est aussi un truc auquel on pense moins en étant technique, mais les outils prêtent vachement à confusion vu qu'ils sont utilisés par les deux côtés aujourd'hui.
Bah, moi, je trouve que ça valide un peu ce que je disais un peu plus tôt sur ce côté de langage commun et qui fait que la frontière peut être hyper confuse entre où s'arrête le périmètre de l'ops et où s'arrête le périmètre du dev. Enfin, moi, je trouve que ça illustre vachement ce propos, quoi.
Alors, moi, je vais reprendre la parole. Tout à l'heure, j'ai vu une offre, justement, d'ingénieur DevOps. Alors, je vais prendre un petit extrait. Comme ça, on comprendra un petit peu de quoi on parle. Donc, un ingénieur DevOps, qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, son poste, qu'est-ce que c'est? En collaboration avec l'équipe des développeurs et l'équipe infrastructure. Donc, ça veut dire qu'il collabore avec les devs et avec les ops. Déjà, on peut se poser la question d'où il est, mais bon. Vous devez mener les tâches suivantes. Donc, mettre en place la fin de la migration du legacy. De quoi, on ne sait pas. Installer des VM et des Docker. Gestion des logs. Poursuivre la mise en place de l'intégration continue. Automatiser des tests. supervision et amélioration au niveau de l'applicatif et du système de sécurisation, rédaction de la documentation technique. Donc, dans quoi il va évoluer cet ingénieur DevOps? Il va évoluer dans un environnement Docker, CentOS, Jenkins, Redis, PHP et Oracle. Et le profil qui est recherché, c'est une première expérience dans un projet similaire, intervenir en autonomie sur les problématiques DevOps et être un bon communicant, c'est-à-dire travailler en collaboration avec les différentes équipes. Bon, bah, ça va de soi, évidemment, quand on fait du DevOps. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez de cette offre?
C'est un peu une offre d'Ops qui... Enfin, moi, je... Si on retient les buzzwords, pour moi, c'est un taf d'Ops, en fait. Tout ce qui est décrit, c'est quand même pas mal de... Enfin, par exemple, les migrations qui sont évoquées, c'est du travail qui concerne vraiment les Ops, parce que j'imagine qu'il va y avoir du travail d'infrastructure, du travail d'architecture, etc. Donc, en tout cas, pour moi, c'est un boulot d'Ops.
Ouais, je suis assez d'accord avec Erwan sur le fait que c'est un boulot d'Ops qu'on a un peu rebrandé parce que c'est à la mode. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ça, c'est un truc qui arrive aussi assez souvent. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Bon, moi, j'ai eu le cas, par exemple, je travaillais dans une entreprise où mon poste à la base était administrateur système et avec le galère qu'il y a notamment en recrutement. Quand je suis parti, en fait, je suis retombé sur l'offre du poste que j'occupais et le poste, on l'avait renommé en ingénieur en SRE en fait. Pour un peu attirer plus de personnes. Donc j'ai l'impression aussi qu'il y a cette mode, vu qu'il y a une pénurie quand même dans l'informatique en France, de faire un peu de renommage pour rendre les choses un peu plus sexy. Parce que là, dans l'offre, on comprend bien avec il y a du Oracle, il y a du PHP, il y a du CentOS, ça a pas l'air d'être clairement la stack la plus sexy au monde. Donc on sent qu'il y a un peu peut-être ce côté mettre DevOps pour un peu attirer des gens sur un poste d'admin 6 assez classique qui arrive pas à se démarquer au final de la masse et à intéresser des gens. Je sais pas ce que vous en pensez.
Je suis entièrement d'accord. C'est pour moi, je le vois vraiment comme ça. En tout cas, la description du job, tu mets sysadmin, c'est la même chose. Et tu mets le même contenu.
Ouais, exactement. Et c'est assez intéressant parce que justement, quand j'ai fait mon cours à ces élèves ingénieurs, eux, ils savaient même pas ce que c'était qu'un ops. Ils imaginaient qu'un ops, c'était quelqu'un qui allait brancher des câbles réseau ou brancher des racks dans les data centers. Et ils pensaient que c'était quelqu'un qui était beaucoup plus proche de la machine. Et en discutant avec eux, ils ont compris que non, en fait. Et alors moi, ça me fait penser qu'il y a un manque de culture sur notre métier, que le métier d'administrateur système, déjà, il est mal connu. Alors, pour le rendre sexy, on a peut-être inventé le terme DevOps, on lui a collé dessus. Mais je pense qu'en fait, il y a plus une évangélisation à faire. C'est quoi le métier d'admin 6 et c'est quoi le métier d'admin 6 aujourd'hui? Et moi, quand je lis l'annonce, en fait, il y a un truc qui me fait tiquer, c'est que cette personne-là, elle va travailler avec l'équipe infrastructure. Alors, j'en déduis qu'en fait, l'équipe infrastructure, c'est un peu les administrateurs système papa, comme je les appelle, et que du coup, cette personne-là, elle va finalement, quelque part, soit les remplacer, soit les former. Et elle est embauchée pour ça. Et on retrouve justement ce que disait la personne de l'article, que c'est plus facile d'embaucher quelqu'un que de faire évoluer une entreprise. Moi, je pense qu'en effet, ça demande du travail de faire évoluer une entreprise, mais en tout cas, c'est valorisant pour les membres de l'entreprise d'évoluer.
Presque, je pense que c'est aussi nécessaire de faire venir des gens de l'extérieur. Moi, il y a eu un papier qui est assez intéressant d'OVH, et c'était Octave Klaba, je crois qu'il l'avait d'ailleurs rédigé, qui expliquait, alors je digresse un peu, mais c'est pour reprendre cette problématique, qui expliquait qu'en fait, ils avaient fait une grosse erreur, parce qu'il y a beaucoup de postes stratégie, notamment sur l'innovation, etc. C'était que des gens qui étaient là depuis les fondements en fait de l'entreprise, donc du coup, ils n'avaient jamais rien vu d'autre. Donc au final, ils restaient quand même pas mal sur les acquis, ils avaient du mal à se rendre compte d'une certaine réalité du marché des technos. Et c'est vrai qu'aussi, des fois, faire venir des gens de l'extérieur, ça peut aussi apporter une autre vision des choses, donner un peu de perspective. Donc pour ça, je suis assez d'accord au final de se dire que parfois faire venir quelqu'un d'extérieur pour le DevOps, ça peut grandement aider quoi. Du coup, tu veux, je sais pas ce que t'en penses toi, Christophe, là-dessus.
Ouais, je sais pas. On peut aussi clôturer vu que je vois que ça fait quand même 40 minutes qu'on parle. Alors, tout à l'heure tu parlais du SRE. En plus, le SRE, il me semble que c'est une méthodologie en plus d'être un rôle pour le coup qui lui est bien identifié, qui est une méthodologie qui est prônée par Google, je crois, je me trompe pas.
Non, c'est ça, ça a été défini par Google, en gros, et c'est un métier, effectivement, et une méthodologie qui prend racine dans le DevOps, on va dire.
Ok, alors oui, donc moi je pense qu'en effet, faire venir des gens de l'extérieur, c'est vachement bien. Par contre, les faire venir sous des faux termes, c'est pas une bonne chose. En plus, ça m'embête parce que c'est vrai que mon métier, c'est quand même d'accompagner les entreprises à faire des transitions DevOps. Donc, si ils embauchent des Ops qui rebrandent en DevOps et qui font pas appel à des personnes, des coachs comme moi, quelque part, enfin, moi, je pense comme on le disait, ils se focalisent un peu trop sur l'automatisation qui est un des piliers, en effet, DevOps, mais ils oublient tous les autres piliers. Et on n'oublie pas, hein, c'est Calms. Calms, c'est coopération, automatisation, Lean, donc amélioration continue, mesure, et share, donc partage, pour partager l'information. Et du coup, j'ai peur qu'en fait, en se focalisant sur ce métier-là, ils oublient tout le reste, et que du fait... alors, c'est bien hein, pour ces entreprises, mais tant qu'elles n'auront pas fait une transition DevOps complète, elles vont peut-être pas aller aussi loin qu'elles pourraient aller. Alors, je vais, si ça vous ennuie pas, je vais clôturer un petit peu sur ça. Et juste en lançant une pièce dans la machine, peut-être pour un prochain podcast, le DevSecOps. Alors, le DevSecOps, est-ce que le DevSecOps, ça existe? Est-ce que le DevSecOps, c'est un rôle en devenir? Bref, on en parlera peut-être un jour. Je crois qu'il est temps de clôturer ce podcast, puisque mine de rien, on a quand même pas mal parlé. Et je vais vous laisser la parole à tous les deux.
Bah, c'était bien pour une première.
Bah ouais, non, c'était sympa, je pense qu'on a pu, c'était intéressant d'avoir les points de vue de chacun et aussi profiter de l'expérience de chacun sur ces questions, parce qu'on n'a pas forcément le même ressenti, le même vécu. Donc non, c'était plutôt cool. Donc voilà, bah, merci à vous en tout cas.
Merci.
Et ben en tout cas, moi je vous remercie profondément parce que ce premier épisode annonce de futurs épisodes plein de bonnes choses. Et si je peux teaser un petit peu, je crois qu'au prochain épisode, il est prévu comme sujet de fond le Cloud Act et la souveraineté numérique. Donc si vous voulez en savoir plus sur le Cloud Act et la souveraineté numérique, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Et puis ben, on vous dit à la prochaine fois. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. La balade de diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Si l'épisode t'a plu, note-le. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, le plus simple, c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps. Le lien est en description. À bientôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.